Bon, je vais vous rabâcher encore un peu l'histoire. On en a longuement parlé dans le Swiss Bliss de ce week-end, mais on va quand même devoir revenir dessus ce matin, c'est obligatoire. Vendredi, l'économie américaine a donc détruit 23 000 emplois. 23 000, alors qu'on en attendait plus de 80 000 en termes de création d'emplois. Et vous savez ce qu'a fait Wall Street? Oui, évidemment, vous savez. Ils ont terminé au plus haut de tous les temps. Un nouveau record, un plus haut historique sur le S&P 500, le même jour où on nous annonce 23 000 emplois de moins sur le dernier mois. Alors, je répète parce que je veux être sûr que vous m'avez bien entendu et bien compris, hein. On a un pays qui perd des emplois, les gens sortent du marché du travail par millions et la bourse fait le meilleur niveau de son histoire. Le même jour, à la même heure, ou presque. Et le pire, c'est que c'est assez logique, hein. Il y a une explication tellement tordue que quand vous l'aurez comprise, vous ne regarderez plus jamais un chiffre de l'emploi de la même manière. Alors restez avec moi parce que dans les 15 prochaines minutes, je vais vous montrer comment on en est arrivé là et surtout comment tout ce record tient sur 4 hypothèses dont une vient déjà de sauter ce week-end. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le lundi 10 août 2026. J'ai une histoire à vous raconter, une histoire de guerre, de pétrole, de chômage, de dette américaine et d'un type qui a changé un seul mot dans un communiqué et qui a fait bouger la courbe des taux de la première puissance mondiale. C'est parti!
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
Alors d'abord, il faut que je vous explique pourquoi vendredi n'a aucun sens. Ou plutôt, pourquoi ça a un sens si on interprète correctement avec la conviction profonde que toutes les mauvaises nouvelles sont finalement des bonnes. Dans un marché normal, un marché de gens normaux, dans un monde normal, un mauvais rapport sur l'emploi, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que l'économie, quelque part, est en train de ralentir. Donc, que la banque centrale va devoir baisser les taux pour la soutenir. Donc, de l'argent moins cher. Donc, c'est la fête au village. Sauf qu'on n'est pas dans un monde normal. On est en 2026. Trump est au pouvoir et on commence à se dire qu'on vit dans un cirque où le monsieur loyal est complètement bourré à longueur de journée. Et on vit dans un monde où les négociations de paix font preuve d'une créativité inouïe pour humilier l'autre partie. Donc, dans ce monde 2026, dans l'environnement économique dans lequel nous sommes, la Fed de Kevin Warsh ne réfléchit pas à une seconde à baisser les taux, elle réfléchit à les monter. Ça aussi, vous le savez, bien sûr. Les monter parce que la guerre a foutu le pétrole en l'air, et que le pétrole a foutu l'inflation en l'air, et qu'au vu des négociations de paix lunaires entre l'Iran et les USA, c'est pas encore terminé. Alors, j'imagine que vous voyez bien le truc, mais on n'est pas monté vendredi parce que la Fed va nous aider. On est monté parce qu'elle ne va peut-être pas nous taper dessus. La probabilité d'une hausse de taux est donc retombée à 43%, et c'est ça vraiment l'événement fondamental de ce vendredi. Là-dessus, le S&P 500 a pris 3,6% sur la semaine et le Nasdaq 5,2%. C'est comme si vous tombiez en panne sur l'autoroute en plein mois d'août avec les gamins qui hurlent à l'arrière, le capot qui fume, et que vous vous disiez « Ah bah super, au moins je vais éviter de me faire gauler au radar un bout plus loin ». Techniquement, vous avez raison, vous éviterez le radar. Mais concrètement, vous êtes juste en train de cramer sur la bande d'arrêt d'urgence avec la furieuse envie de massacrer votre voiture, le type qui vous l'a vendu et Donald Trump parce que quelque part, c'est toujours la faute de Trump. Et puis il y a un truc qui devrait vous inquiéter beaucoup plus que ça ne vous amuse, parce qu'à force de souhaiter que l'économie aille suffisamment mal pour que la Fed nous laisse tranquille, moi j'ai un peu peur qu'un jour on va l'obtenir, l'économie qui va suffisamment mal, et pour de vrai. Parce que fondamentalement ce que veut le marché aujourd'hui, c'est une économie assez malade pour avoir droit aux médicaments, mais assez en forme pour quand même pouvoir aller bosser tous les matins. C'est un équilibre instable, un équilibre de funambule, sauf que le funambule, là, il est complètement bourré et il n'y a pas de filet en dessous de la corde. Et puis alors maintenant, je vais vous montrer le chiffre de ce rapport dont personne n'a vraiment voulu parler vendredi, et c'est peut-être celui-là qui fait beaucoup moins rire. C'est le taux de participation. Alors le taux de participation, c'est le pourcentage d'Américains qui travaillent ou qui cherchent activement du travail. Ce taux-là, il est tombé à 61,4. On n'avait plus vu ça depuis le Covid, et si on met le Covid de côté, eh bien, il faut remonter des décennies en arrière. Concrètement, la population active américaine a perdu plus d'un million de personnes en 12 mois. Un million. Bah, elles sont pas mortes, elles ont pas déménagé, elles ont arrêté de chercher. Il y avait 503 000 travailleurs qui étaient découragés, qui ont été recensés au mois de juillet, des gens qui ont envoyé des CV pendant des mois et qui n'ont jamais eu de réponse et qui ont fini par éteindre l'ordinateur et abandonner. Et c'est là qu'intervient le plus beau tour de magie de la statistique moderne. Écoutez bien, dès que vous arrêtez de chercher un emploi, vous sortez de la population dite active. Vous n'êtes plus un chômeur, vous n'existez plus dans le calcul. Et donc, attention, le taux de chômage baisse, il s'améliore. Par exemple, j'ai une voisine qui cherche un boulot depuis le mois de février. Le mois dernier, elle a décidé d'arrêter de chercher, elle a laissé tomber. Statistiquement, elle va très bien, elle va même mieux qu'en janvier. Elle ne bosse plus, elle ne mange plus, elle ne consomme plus, mais elle va mieux. Enfin, je crois, je ne l'ai pas vue depuis 2 semaines. Mais le vrai problème n'est même pas là. Le vrai problème, c'est qu'une main-d'œuvre qui rétrécit avec une demande qui tient, ça a un nom. Ça s'appelle la pression sur les salaires. Et la pression sur les salaires, ça a un autre nom. Ça s'appelle l'inflation. Autrement dit, et c'est ça qui est vicieux, la bonne nouvelle de vendredi est peut-être le mécanisme de la très mauvaise nouvelle de cet automne. Mais bon, le S&P 500 a battu un nouveau record, et c'était pas le moment de dire du mal trop fort, ni de fâcher les gens. Les records sont donc tombés comme des mouches, et les superlatifs nous manquaient pour exprimer tout ça. Maintenant, on va parler un tout petit peu des taux. La semaine dernière, le taux à 30 ans américain a touché son plus haut niveau depuis 19 ans. Le 10 ans se traîne autour des 4,65, c'est-à-dire plus haut qu'au début du second mandat de Donald Trump. Alors, que faire baisser ce taux-là, c'était quand même une partie des promesses électorales. Un peu comme le gallon d'essence à 2 balles. Il ne faut pas oublier qu'en face, vous avez 2000 milliards de déficit par an et une dette fédérale de 39 841 milliards de dollars. Les 40 000 milliards, on les franchira avant la fin du mois d'août. On va surveiller ça et on va en reparler, ça c'est sûr. Donc, le secrétaire du Trésor, Scott Bessent, s'est mis au boulot pour faire bouger les choses. Et il a déjà fait 3 choses. 1, il a organisé la première intervention américaine sur le yen depuis 1998. Officiellement pour aider un copain, en réalité pour éviter que le Japon soit obligé de vendre des bons du trésor américain pour se procurer des dollars, dollars nécessaires à défendre sa propre monnaie. En 2, il a rappelé gentiment à Tokyo qu'il existe à la Fed un guichet où les banques centrales étrangères peuvent emprunter des dollars en gardant leurs obligations américaines. Traduction en français courant, s'il vous plaît, ne vendez pas, empruntez plutôt. Alors quand le premier vendeur d'obligations du monde, on est réduit à demander poliment à ses clients de ne pas rendre la marchandise, c'est pas un signe de superpuissance mondiale, c'est plutôt un type qui tient la porte d'un magasin en train de fermer et qui fait des soldes pour vider les stocks. Mais le meilleur, c'est le troisième point. Dans le communiqué trimestriel de refinancement, le Trésor américain a remplacé un mot. Un seul. Là où il écrivait « augmentation », il a écrit « changement ». Un seul mot. Résultat, 61% des professionnels sondés pensent que désormais, le prochain mouvement sur les enchères du 30 ans sera une baisse. À Washington, changer un mot dans un règlement, ça déplace la courbe des taux de la première économie mondiale. Et pour compléter le tableau, vous avez un président de la Fed tout neuf qui a déclenché quand même une espèce de purge obligataire au mois de juillet parce qu'il était incapable d'expliquer comment et quand il ramènera l'inflation à 2%. Cible entre nous soit dit qui est ratée quand même depuis 5 ans. C'est pas que Warsh le fautif. En résumé, vous avez un ministre des Finances qui passe à la télé pour expliquer à la place de Warsh que les marchés ont besoin d'une détox. Détox de la Fed, et vous avez un président des États-Unis qui menace de virer encore une fois une gouverneure de la Fed, Madame Lisa Cook. Un banquier central qui n'explique rien, un ministre qui explique à sa place, un chef d'État qui menace de licencier ceux qui le dérangent. Et on parle des États-Unis, pas d'une république bananière. Bon, maintenant on passe à Hormuz, le feuilleton Netflix du moment, saison 4, épisode 28. Petit rappel du calendrier de la semaine dernière, parce que je m'en lasse pas personnellement. Donc mardi dernier, le secrétaire du Trésor, le même Bessent qui s'occupe de la courbe des taux, annonce à la télévision américaine qu'un accord pour ouvrir le détroit d'Hormuz pourrait tomber dès le lendemain, donc mercredi dernier. Rien. Vendredi, Trump a quand même relayé sur ses réseaux un article intitulé, je cite, « Donald Trump a gagné la guerre contre l'Iran ». Le gars, il a pas honte quand même, hein. Et puis, samedi, Téhéran a envoyé la facture. Alors là, il faut écouter la liste qu'ils ont demandé, ce qu'ils réclament pour terminer cette guerre et pour ouvrir le détroit. L'Iran demande donc, et bien évidemment, la fin permanente de la guerre, la levée du blocus naval, le retrait des forces navales et aériennes américaine de toute la région. D'ailleurs, à ce propos, ils n'ont pas précisé le sens du mot « région », parce que si ça inclut tout le Moyen-Orient, c'est pas gagné. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils demandent aussi le paiement intégral des dommages causés par la guerre, la levée totale des sanctions, la libération des avoirs gelés, l'arrêt des attaques contre ses alliés, et mon préféré, celui-là, j'aimerais pouvoir l'encadrer là au fond de mon studio, l'arrêt des menaces et des insultes. C'est écrit noir sur blanc dans un communiqué du Conseil suprême de sécurité nationale iranien. Quelqu'un à Téhéran a tenu à faire figurer « et arrêtez d'être méchants avec nous » dans un document stratégique et diplomatique. Il faut reconnaître qu'ils ont été magnanimes, hein. Ils n'ont pas demandé qu'on leur coule un bain ni que Trump vienne leur frotter le dos et leur masser les pieds. C'est déjà pas mal. Et donc la réponse de Washington, pas vraiment directe pour l'instant, mais dimanche au téléphone, Trump a déclaré « on fait ça discrètement, on semi-négocie ». On semi-négocie. Alors ça c'est très fort, hein, parce que semi-négocier c'est comme être semi-enceinte, ou semi-fidèle, ou semi-mort. Ça n'existe pas. Mais ça permet de gagner quand même quelques jours devant les caméras de Fox News. En vrai, la stratégie américaine, elle tient en un seul mot, visiblement, c'est attendre. Oui, parce que l'inflation iranienne tourne à 77% en ce moment. 77% d'inflation. Autant vous dire que là, ils vont pouvoir les monter les taux. Le régime peine à payer ses soldats, donc Washington est en train de laisser pourrir la pomme sur l'arbre et il compte les points. Et Trump l'a dit lui-même ce week-end, on joue aux échecs. Ouais, sauf qu'aux échecs, il n'y a pas d'élection de mi-mandat dans moins de 3 mois, et aux échecs, le gallon d'essence n'est pas à 4,02. Parce que c'est ça le vrai tableau de bord de cette guerre. Hein. C'est pas le Brent, c'est pas les cartes du golf à la télévision avec des flèches rouges, et ce ne sont pas les experts qui viennent expliquer comment ça marche. C'est le panneau lumineux de la station-service. Le prix affiché en gros chiffres à l'entrée. Et pour l'instant, eh ben, il est une sale gueule. Une sale gueule qui dit que Trump va se faire défoncer aux élections de mi-mandat. Et pendant qu'on regarde le détroit, le conflit s'élargit par les côtés. Les Houthis ont frappé dimanche la raffinerie Aramco de Jazan, deuxième incendie en un mois sur le même site, et ils bloquent toujours les ports saoudiens qui étaient, je vous le rappelle, la route alternative au détroit d'Ormuz. Et puis vendredi, presque en douce, l'Arabie Saoudite a signé un pacte de défense collective avec la Turquie et le Pakistan. Une attaque contre l'un de ces trois-là est une attaque contre les trois. Le Pakistan, qui eux possèdent l'arme nucléaire. Cette information a eu droit à 4 lignes dans la presse financière. Allez, 5 peut-être, ça dépend les journaux. Parce que le monde était bien trop préoccupé de savoir s'il fallait encore acheter du Palantir après 44% de hausse. Résultat, côté pétrole, le Brent est repassé au-dessus des 84$, plus 5% en 3 séances. Mais rassurez-vous, maintenant on le sait, les marchés se foutent totalement du pétrole quand il monte. Ils ne s'y intéressent uniquement que quand il baisse. Là, par contre, alors, c'est champagne et cotillon. On est devenus clairement les champions du monde de la pensée positive. On a carrément réinventé la méthode Coué version finance. Et puis maintenant, je vais vous emmener 2 minutes dans la pièce de la maison où personne ne descend depuis un bon moment. Pas de fenêtre, pas de lumière, pas de chauffage. Le crédit privé. Oui, parce que les grands fonds cotés viennent de publier leurs chiffres. Les taux de défaut sont au plus haut depuis au moins 2021. Les rendements qui dépassaient allègrement les 10% à la belle époque aujourd'hui tournent péniblement autour des 7%. Bon, en soi, c'est pas la fin du monde, hein, c'est juste qu'il devient nettement moins facile de faire du pognon dans ce métier. Mais il y a un détail, et ce détail, il devrait quand même vous inquiéter un tout petit peu, ou en tout cas, vous devriez le garder en tête. Dans beaucoup de ces fonds, 20% ou plus des prêts ont été accordés à des sociétés de logiciels. Des sociétés de logiciels, hein. C'est-à-dire précisément celles que le marché action est en train de condamner à mort tous les jours au nom de la disruption par l'intelligence artificielle. Donc on achète l'IA en bourse à des niveaux records, parce que c'est l'avenir, et en parallèle, on a prêté du pognon à ses futures victimes, et c'est souvent les mêmes investisseurs. Et tout ça se produit alors que l'économie américaine est censée bien se porter. Des taux de défaut qui montent quand tout va bien. C'est un peu un toit qui fuit alors qu'il ne pleut pas. Et puis alors, dernière chose, et c'est pas le moins intéressant de la liste, samedi, Berkshire a publié ses chiffres, bénéfices opérationnels en hausse de 16% à 13 milliards, mais seulement 6% si on retire les gains de change. Mais le vrai signal est ailleurs. La société a racheté pour 4,5 milliards de ses propres actions au second trimestre. Au trimestre précédent, c'était 235 millions. Et il reste encore 365 milliards de dollars de cash sur la table. Alors, réfléchissez 30 secondes à ce que ça veut dire. L'homme qui a hérité de la plus grosse pile de liquidités de l'histoire du capitalisme a scanné le marché mondial dans tous les sens, il a cherché quelque chose à acheter, il n'a pas trouvé, et le meilleur truc que finalement il ait trouvé, c'est de se racheter lui-même. De là à dire que tout le reste est trop cher, il y a un pas que je ne franchirai pas, parce qu'après on va me traiter de pessimiste. En gros, Où en est-on ce matin ? Le record de vendredi repose sur quatre hypothèses empilées les unes sur les autres comme des caclons à fondu dans un placard en attendant une température plus clémente. Un emploi qui ralentit, mais pas trop, des taux longs qui se détendent, une pression énergétique qui retombe et une Fed qui resterait assise sans rien faire. Le week-end a déjà cassé une hypothèse, c'est l'Iran qui a envoyé sa facture et le pétrole est reparti à la hausse. Il en reste donc trois. Et mercredi à 14h30, l'inflation américaine nous dira si la plus importante tient encore debout. En attendant, vendredi, on a fêté la panne pour éviter l'amende. Ce matin, l'Asie monte dans le sillage de Wall Street et tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Le problème, c'est que la panne, elle est quand même réelle quelque part. Et l'amende, elle pourrait bien finir par arriver un jour. Peut-être pas aujourd'hui, c'est vrai, mais elle pourrait finir par arriver un jour. Rendez-vous donc mercredi à 14h30. En attendant, revenez demain, likez cette vidéo, commentez et partagez. Et puis alors, si c'est pas encore fait, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour ne rien rater de la suite. Voilà. Belle journée à tous. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.